Sonia Lagarde garde des ambitions et porte des projets pour Nouméa. Le maire sortant a annoncé sa candidature pour les prochaines municipales. L'ADEC communique sur son plan social. À une semaine et demie de la rentrée, elle annonce la fermeture de certains de ses internats à Poindimier, Pouébo, Bouraï, Lafoy et Païta. Le campus de Nouville et de Bakko retrouvent leur activité. Les étudiants de première année ont découvert ce matin le cadre de leur aventure universitaire. En métropole, 50 prisons dont un ferme, une amende et 5 ans d'inéligibilité. Ce sont les réquisitions contre Marine Le Pen dans le procès en appel des assistants parlementaires européens. Le ministère public n'a pas réclamé d'exécution provisoire pour la peine d'inéligibilité. Un collégien de 14 ans poignarde un professeur dans un collège à Sanary, dans le Var. L'enseignante est entre la vie et la mort. Et puis en football, le début des huitièmes de finale de la Coupe de France. Qualification ce matin de Marseille qui a sorti Rennes et de Reims qui a dominé Le Mans. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Avant de développer tous ces titres, revenons sur cet accident de la route dont je vous parlais à 11h. Il a eu lieu dans le col de la Pirogue ce matin, peu après 10h. La circulation a été totalement coupée et une déviation mise en place par le littoral pendant une trentaine de minutes. Le trafic est désormais rouvert dans le sens sud-nord, mais l'autre voie reste fermée à la circulation, de temps de dégager le véhicule accidenté. Il s'agit d'un pick-up qui s'est retourné pour une raison encore indéterminée. Il n'y a pas de blessés graves, mais une intervention des sapeurs-pompiers est nécessaire pour pouvoir dégager la chaussée dans les meilleures conditions. Soyez prudents si vous circulez dans le secteur. Actualité politique à la une. Le suspense était très relatif, mais Sonia Lagarde y a mis fin. Elle est candidate pour un nouveau mandat à la mairie de Nouméa avec une équipe renouvelée, Elisabeth Noir.
Maire de Nouméa depuis 2014, réélue en 2020, Sonia Lagarde sollicite donc un troisième mandat à la tête de la ville et elle affirme avoir la forme, la volonté et l'énergie pour l'assumer. Elle met en avant un triptyque pour présenter sa candidature. Stabilité, solidité et sérieux, trois mots qui résument son ambition pour ce nouveau mandat, même si elle laisse entendre qu'elle a un peu hésité.
Quelques hésitations, bien sûr, parce qu'il faut qu'on soit extrêmement sérieux quand on se lance. Mais vous savez, j'ai trois mots. C'est stabilité, solidité et sérieux. Mon bilan est là, derrière moi. Je pense que les Nouméens le connaissent. Et j'ai la forme, j'ai l'énergie, j'ai la volonté. Donc oui, j'ai annoncé aujourd'hui parce que j'ai aux Nouméens de bien vouloir une nouvelle fois me faire confiance, comme ils l'ont fait déjà à plusieurs reprises. Et ce pacte de confiance qui est établi avec les Nouméens à chaque fois, eh ben, vous oblige. Ils m'ont obligé.
Sonia Lagarde revendique un bilan, l'amélioration de la qualité de vie des Nouméens et l'embellissement de la ville, mais tout en relevant que la mandature qui s'achève a été très compliquée. Elle rappelle le Covid, les émeutes et la situation financière, mais elle se prévaut d'une gestion rigoureuse des deniers publics.
J'ai fait ce qu'il fallait faire et j'ai répondu de manière concrète par la réalisation de tout ce que nous avons fait pour embellir la ville. J'ai encore des choses à faire et je le ferai si les Nouméens veulent bien me renouveler à nouveau leur confiance. Et je le ferai avec la réalité budgétaire qui est la nôtre. Les projets que je proposerai ne seront ni farfelus ni irréalistes. Ils ont été sérieusement étudiés, planifiés à l'échelle de la mandature. Notre programme va sortir dans quelques jours et donc chacun pourra avoir une notion de ce que je proposerai avec une équipe composée d'anciens et de nouveaux, une équipe ouverte avec cette passion qu'ont les uns et les autres pour leur ville.
Des projets ni farfelus ni irréalistes sur lesquels Sonia Lagarde n'a rien dit pour le moment. Elle ne présente pas encore son programme et elle ne présente pas encore son équipe, mais la plupart de ses futurs colistiers étaient déjà présents autour d'elle ce matin, des anciens et des nouveaux, avec au moins une surprise, la présence d'Emmanuel Bérard, élu d'opposition de génération. Il justifie sa participation à la liste de Sonia Lagarde en déclarant notamment que la situation de Nouméa et plus largement de la Nouvelle-Calédonie sont devenues trop graves pour les querelles de chapelle, les divisions stériles et les ambitions personnelles.
Nous, génération Nouméa, c'est la ville et rien que la ville. Pas d'ambition provinciale, pas d'ambition autre. Pour nous, c'était la politique de la ville. J'ai combattu quand il fallait le maire. J'ai souvent fait de l'opposition constructive. J'ai fait beaucoup de propositions. J'ai souvent posé beaucoup de questions pour éclairer le public, pour éclairer nos citoyens. Et donc, j'ai pensé que dans cette période-là, avec les miens, en conscience, il fallait faire un choix de raison plus que de cœur, mais que nous sommes en capacité de travailler avec Madame le maire, de faire des propositions en interne. Finalement, on les fera en interne et plus en externe. Et qu'on pourra, à mon avis, avancer ensemble dans l'intérêt de la ville, des Nouméennes et des Nouméens.
Et nous reviendrons sur ce lancement de campagne demain à 7h30. Sonia Lagarde sera en effet notre invitée du matin.
Et l'actualité des élections municipales, c'est aussi à Dembéa, la liste Unir pour l'avenir, menée par Cynthia Jean, qui reçoit le soutien de la section Dembéa du Rassemblement. Soutien annoncé par un communiqué du président du Rassemblement, Alcide Ponga, et du président de la section Dembéa du Rassemblement, Xavier Rossard.
C'est un choix mûrement réfléchi pour trois raisons principales. En fait, aux élections municipales en 2020, beaucoup de Dembéens ont apporté leur soutien au maire Georges Naturel. Et depuis les élections sénatoriales 2023, beaucoup se sont sentis trahis et ne comprennent pas aujourd'hui le fonctionnement de cette équipe municipale. Donc on a aussi, lorsque nous avons travaillé le programme avec les équipes de Cynthia Jean, compris que la sécurité était la priorité numéro une de Dembéa, et aussi parce que dans un contexte compliqué où effectivement l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie est encore en question, et face à une liste d'union des indépendantistes, il était nécessaire aussi que les loyalistes et le Rassemblement fassent une liste d'union à Dembéa. Et donc c'est pour ça que nous sommes tous derrière cette liste d'union menée par Cynthia Jean.
Xavier Rossard, le président de la section Dembéa du Rassemblement, qui apporte donc son soutien à la liste Unir pour l'avenir, conduite par Cynthia Jean. C'est l'autre grand titre du jour et il concerne la DEC qui a écrit une lettre ouverte aux familles des élèves, à la communauté éducative et aux institutions. À une semaine et demie de la rentrée, la direction diocésaine de l'enseignement catholique dévoile son plan de licenciement économique, mais aussi ses conséquences pour les élèves, Nicolas Legrand.
Oui, la DEC rappelle tout d'abord les difficultés rencontrées depuis des années dans le privé. Elle pointe du doigt la baisse démographique et surtout la diminution des contributions publiques à hauteur de 800 millions de francs entre 2019 et 2025. Alors pour faire face à la situation, la DEC a réorganisé ses services et a décidé notamment de ne pas remplacer les départs à la retraite, des leviers qui, je cite, ont permis d'éviter des décisions difficiles mais qui ont atteint leurs limites. Je cite encore, il n'y a plus d'autre choix que de réduire la masse salariale des personnels titulaires. La DEC rejette la responsabilité de la situation sur les pouvoirs publics. Je cite toujours cette lettre ouverte, force est de constater que malgré toutes les alertes lancées et les mobilisations menées, les promesses reçues des plus hautes instances de la Nouvelle-Calédonie n'ont pas été tenues. C'est donc dans ce contexte que la direction diocésaine de l'enseignement catholique a engagé un plan de licenciement collectif à motif économique qui a donc été discuté avec les représentants du personnel fin décembre, début janvier. Pour la rentrée, ainsi, les internats du collège Jean-Baptiste Vigouroux de Poindimier, du collège Hippolyte Bonneau de Puébo, du foyer Saint-Jean de Bouraille, du collège Saint-Dominique Savio de La Foix et du foyer Saint-Léon de Païta seront fermés, comme les micro-cantines d'écoles de Lifou, Wailou, Ponérimouin, Poindimier, Touau, Yengen et Poum. Pour ces écoles, des solutions sont recherchées d'ailleurs avec les familles. La DEC qui affirme que ces décisions ont été prises en responsabilité car l'existence même de l'enseignement catholique en dépend. La DEC affirme par ailleurs avoir tout fait pour limiter autant que possible l'impact sur les élèves et garantir la continuité pédagogique. Je cite, nous mesurons pleinement l'inquiétude et les interrogations que ces annonces peuvent susciter. Le dialogue avec les représentants du personnel se poursuit, tout comme les échanges avec les partenaires institutionnels afin d'explorer toutes les marges de manœuvre possibles et d'envisager lorsque les conditions le permettront, des ajustements ou des mesures complémentaires, peut-on lire dans cette lettre ouverte.
Merci Nicolas, rappelons que la rentrée scolaire c'est le 16 février prochain. En revanche, la rentrée universitaire c'est déjà fait, les étudiants de première année sont retrouvés le campus de Nouville et de Bacau. On va en parler juste après la première pause de ce journal.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Nuisible, un seul réflexe, Formula 4D. Dératisation, détermitage, désinsectisation, traitement de charpente. 40 ans d'expérience, conseils de pro et devis gratuits. Info sur Facebook.
La rentrée pour les parents, des enfants sages toute la journée. La réalité, des copains, des jeux, des bêtises et des vêtements soumis à rude épreuve. Heureusement, chez Gémeaux, il y a du choix et des prix plus qu'abordables pour des vêtements et des chaussures qui tiennent le coup.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
À la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, et c'est donc reparti pour une année universitaire sur les campus de Nouville et de Bacau. Les cours vont débuter officiellement lundi prochain pour l'ensemble des étudiants, mais Les étudiants en première année, eux, effectuent depuis ce matin leur semaine d'intégration, Léana Colombo.
Et c'est l'effervescence depuis ce matin sur le campus de nos villes. Après plusieurs mois de vacances, il est temps de reprendre le chemin des études. Et passer du lycée à l'université, c'est un changement de taille. Pour aider ces nouveaux étudiants, une semaine d'intégration est proposée. Elle est obligatoire et concerne tous les premières années, qu'ils soient inscrits en licence ou dans d'autres sections à nos villes et Baco. Entre stress et euphorie, les étudiants avaient hâte d'entamer cette nouvelle aventure.
Je rentre en première année de LLCER anglais et c'est un peu impressionnant parce que c'est quand même l'université. Mais en même temps, ça motive. Ce qui me fait peur là, c'est qu'il y a surtout beaucoup d'autonomie et c'est vraiment donner du travail personnel. Je sais que je vais pouvoir en donner, mais c'est sûr que ça change beaucoup du lycée et je pense que le rythme aussi et l'implication personnelle, ça va être beaucoup plus demandé. Mais bon, je pense que ça va être difficile dans les premières semaines, mais l'important, c'est que ça va s'améliorer.
Je suis en première année de LAS, la licence accès santé, donc l'équivalent de la première année de médecine. C'est sûr que c'est très, très différent du lycée, d'autant plus que c'est beaucoup plus grand. Assez stressant, mais à la fois, je me dis, ça montre qu'on grandit et c'est toujours bien. De découvrir d'autres établissements.
Je suis en licence de lettres. J'ai décidé de faire une réorientation. Je trouve que cette année, l'encadrement, il est beaucoup plus supervisé. L'année dernière, on a dû un peu beaucoup plus sociabiliser pour apprendre à se connaître et tout, et pouvoir s'orienter. Et franchement, le mieux que je puisse donner comme conseil, c'est de toujours participer aux cours, de toujours être motivé et surtout de toujours s'entraider. Et j'espère que la rentrée de tout le monde se passera super bien comme la mienne.
Certains sont venus seuls, d'autres entre amis ou alors en famille. Albert a accompagné son fils qui rentre en licence de droit, une étape importante à laquelle il souhaitait être présent.
C'est une joie pour accompagner mon fils ici à l'université parce que il va rentrer en études supérieures, puis c'est un an de moins les études supérieures. Et donc c'est aussi bien pour lui, pour la suite de son avenir, surtout qu'il a choisi un domaine qui n'est pas très facile, qui est le droit. Là, on les laisse un petit peu dans le monde des adultes, quoi, un petit peu être responsable de ce qu'il va vivre à l'université. Il va se prendre en charge un petit peu lui-même, aussi bien pour tout ce qui est à manger, dormir, tout simplement bouger dans la ville de Nouméa, parce qu'en fait, on vient de l'IFU, quoi. Et un gros changement, les transports à prendre, il faut être, on va dire, un petit peu autonome, quoi.
Cette semaine d'intégration a débuté ce matin avec un mot de la présidente de l'université Catherine Ries, suivi de la visite du campus et de la rencontre avec les équipes pédagogiques. Pour orienter au mieux les jeunes qui découvrent les lieux, des étudiants bénévoles étaient également présents, comme Guillaume Irving, en licence d'histoire à l'UNC.
Les études supérieures, ça n'a rien à voir avec le secondaire. Il y en a quand même qui viennent avec leurs parents, mais ceux qui viennent tout seuls, ils sont quand même assez désorientés. Et le fait qu'on, nous, les ambassadeurs de l'université, on vienne vers eux justement pour les aiguiller, ils sont assez rassurés, on va dire. J'aurais aimé être accueilli comme ça dans le sens où j'ai pas pu participer à cette semaine d'intégration. J'aurais très bien aimé commencer mon année avec ce genre de choses-là. Parce que cette semaine d'insertion pour les premières années, c'est surtout des ateliers qu'ils ont à faire, notamment pour apprendre à connaître le campus, comment il fonctionne et aussi comment fonctionnent les outils de l'université, comme le site de Moodle ou le site de l'université en lui-même.
Le reste de la semaine sera consacré à des journées de cohésion et une braderie solidaire ce vendredi avant le début des cours prévus pour tous les étudiants en début de semaine prochaine.
Et la présidente de l'université, Catherine Ries, était ce matin notre invitée à 7h30 pour parler de cette rentrée universitaire. L'occasion pour elle d'évoquer notamment le développement de l'université qui va par exemple inaugurer cette année un nouveau pôle de formation baptisé Vectopôle.
On est quand même une université pluridisciplinaire, donc en fait on essaye de couvrir au moins sur les disciplines, j'ai envie de dire, les plus importantes pour le territoire d'être présent, mais d'avoir des spécialisations dans certaines disciplines, effectivement ça permet de faire converger les moyens, les compétences et d'avoir un niveau d'expertise qui est reconnu au niveau national et au niveau régional et international.
Quelle est la vocation de ce Vectopôle pour le définir en deux mots ?
En fait, c'est de travailler sur ce qu'on appelle les maladies vectorielles, les maladies qui sont transmises par des vecteurs. Donc, dans le Pacifique, essentiellement, le moustique et le rat pour la leptospirose. Donc, c'est ça porte des programmes de santé publique, de lutte contre ces maladies.
La présidente de l'université qui a également indiqué qu'au-delà des formations dispensées sur les campus, l'accompagnement des étudiants était une priorité pour la direction de l'UNC.
On ne peut pas parler de vie étudiante, de réussite universitaire sans avoir cet accompagnement sur les différents aspects de ce qui fait le quotidien. Le logement, l'hébergement, la mobilité, le transport,
la nourriture,
la santé, exactement. Et donc on travaille beaucoup avec la MDE, la maison de l'étudiant qui joue ce rôle sur le campus pour tous les étudiants et pas seulement ceux de l'université, d'ailleurs, de les accompagner. On a des étudiants qui sont en situation de précarité. Ils n'hésitent pas à le dire, à se rapprocher de l'assistante sociale qui est à la MDE, qui est présente pour eux, pour les écouter, qui peut accompagner avec des bons alimentaires, avec des tickets pour les transports et qui peut orienter. Il y a aussi des permanences médicales qui sont mises en place. Donc, c'est vraiment important que les étudiants ne restent pas seuls, ne restent pas isolés quand ils sont en difficulté, qu'ils se rapprochent de leurs enseignants qui se rapprochent des services auprès de la MDE.
Catherine Riss, la présidente de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, elle était ce matin notre invitée et vous pouvez retrouver cette interview en podcast audio et vidéo sur notre site internet.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la réponse à la question d'hier. 71% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que le recrutement de soignants à l'extérieur se fait au détriment des personnels de soins en activité sur le territoire. Ils sont 29% à penser que ce n'est pas le cas. Voici notre question du jour. La DEC devrait-elle, selon vous, être plus transparente sur le plan de licenciement en cours? Si vous pensez qu'elle devrait l'être, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31 46. Dans le reste de l'actualité en Calédonie, en bref, je vous rappelle que la Ligue des droits de l'homme a réagi à son tour au rapport controversé de la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur la gestion de l'État de la crise institutionnelle insurrectionnelle du 13 mai 2024. Elle dénonce dans un communiqué une analyse biaisée, partiale et injuste pour toutes les victimes des émeutes de 2024. La Ligue des droits de l'homme de Nouvelle-Calédonie expose également sa position dans un courrier qu'elle a adressé au Premier ministre et au président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Courrier signé de Gérard Sarda, le président de la Ligue des droits de l'homme de Nouvelle-Calédonie, d'Eli Poigoun, son président d'honneur, et de Bernard Robineau, son vice-président. Et puis 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. C'est la condamnation prononcée à l'encontre de l'incendiaire de la maison de la famille Boulbiré à Thiot en décembre 2023. La famille s'était aperçue de l'incendie en s'y rendant pour le réveillon. La maison a brûlé pendant 3 jours sans que personne n'alerte les autorités. Âgé de 22 ans, l'incendiaire n'a été arrêté qu'en fin d'année 2025 grâce à une dénonciation dans le cadre d'une autre affaire. Le jeune homme a été peu loquace à la barre. Il dit simplement ne pas regretter son geste. Depuis, la famille a quitté la commune. La juridiction a également ordonné l'indemnisation de la famille à hauteur d'1 million de francs pour le préjudice matériel et de 500 000 francs pour le préjudice moral. La famille avait demandé 10 millions de francs. L'actualité diplomatique dans la région avec la visite de la présidente des îles Marshall à Canberra. C'est la première visite officielle d'un dirigeant de cet archipel en Australie depuis 1993. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Hilda Haney a qualifié cette rencontre de « nouveau chapitre dans la coopération de haut niveau entre nos deux pays ». Son cabinet a indiqué dans un communiqué que les discussions qu'elle vient d'avoir avec le Premier ministre australien Anthony Albanese ont porté sur l'action climatique et les priorités régionales communes. Toujours selon le même communiqué, la présidente a également souligné l'importance de l'ouverture prochaine d'une ambassade d'Australie à Majuro, capitale de l'archipel. C'est une étape capitale dans nos relations bilatérales, a-t-elle dit, avant d'inviter Anthony Albanese à se rendre en visite officielle aux îles Marshall. Le Pacifique est là où nous vivons et nos relations avec nos voisins sont essentielles, a déclaré celui-ci en réponse. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
11h49, nouvelle pause dans ce journal avant de se retrouver dans un petit instant pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Au frais du temps, au frais du soin, au frais du bien-être. Avec Quintessence, centre de bien-être et de régénération à Nouméa. Offrez une expérience sensorielle unique à la personne que vous aimez. Le bon pour s'aimer, disponible chez Quintessence au 16 rue de Sébastopol, 31 85 85.
Vous
rêvez d'espaces de rangement supplémentaires, DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducose, 27 74 20 ou sur Facebook.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite. Nefomag, on retrouve Jean-François Baudin.
Et l'avenir politique immédiat de Marine Le Pen se joue sans doute devant la justice. Le procès en appel de l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National se poursuit et on connaît les réquisitions. Après avoir plaidé pendant 6 heures, le ministère public a réclamé 4 ans de prison, dont un ferme avec aménagement sous bracelet électronique, 100 000 euros d'amende, c'est-à-dire un peu plus d'1 100 000 francs, et 5 ans d'inéligibilité, mais qui cette fois-ci n'est pas assorti d'une exécution provisoire. Mais quelle que soit la peine, l'équation reste compliquée pour Marine Le Pen en vue de la prochaine présidentielle. Explication d'Arthur Delaborde pour Europe 1.
Un an de prison ferme requis au lieu de 2 en première instance et surtout pas d'exécution provisoire de l'inéligibilité. Sur le papier, c'est un geste du parquet général. Dans les faits, cela ne change presque rien pour Marine Le Pen. Si la cour d'appel confirme cet été les 5 ans d'inéligibilité, la sanction s'appliquera. Même sans exécution provisoire, seule issue alors un pourvoi en cassation. Or, la cour de cassation s'est engagée à trancher avant fin 2026, c'est-à-dire bien avant la présidentielle d'avril 2027. Autrement dit, le sursis serait très court. Marine Le Pen le sait. Elle a déjà expliqué qu'elle ne comptait pas sur un pourvoi en cassation pour se maintenir dans la course. Elle tranchera donc cet été après la décision de la cour d'appel. 2 options. Soit les juges ramènent l'inéligibilité à 2 ans maximum et sa candidature reste possible. Soit la peine est confirmée, voire alourdie, et l'horizon présidentiel se referme définitivement.
On ne touche pas aux professeurs. C'est le message martelé par le ministre de l'Éducation nationale après un nouveau drame dans un collège, cette fois-ci à Sanary-sur-Mer, dans le Var. Un élève de 3e a porté plusieurs coups de couteau sur un professeur d'art plastique. Cette femme de 60 ans est toujours entre la vie et la mort. Le jeune agresseur était suivi, mais rien ne pouvait permettre d'imaginer qu'il pourrait passer à l'acte et sans doute avec préméditation. Édouard Geffray, le ministre de l'Éducation nationale, s'est donc rendu sur place pour rencontrer la principale et l'équipe de direction du collège.
Rien n'explique, rien n'excuse, rien ne justifie qu'on s'en prenne à un professeur. Jamais. En République, on touche pas un professeur. À l'école, on touche pas un professeur. En France, on touche pas un professeur. On verra évidemment ce que l'enquête dira sur l'enchaînement des faits, mais le résultat, quoi qu'il arrive, il est inacceptable. Dans notre public, inacceptable.
Le ministre de l'Intérieur, Édouard Geffray, rencontrera la nuit prochaine pour nous les enseignants de ce collège dont les portes resteront fermées au moins une journée. Le refus d'obtempérer, casse-tête pour les forces de l'ordre. 28 200 infractions de ce genre ont été constatées l'an dernier et cela pose des questions sur la manière dont les forces de l'ordre peuvent intervenir. Le ministre de l'Intérieur est même plutôt embarrassé. William Molinier pour Europe 1.
D'un côté, il est le garant de la sécurité de ses agents. Pas question de les envoyer au casse-pipe face à des délinquants déterminés. De l'autre, Laurent Nunez entend afficher de la fermeté. Il veut se débarrasser de cette image de ministre de gauche qui le poursuit sur LCI ce matin. Il a repris à son compte les consignes passées par son prédécesseur Bruno Retailleau.
La réponse qu'on apporte, c'est d'abord la fermeté. Il y aura toujours des poursuites quand il y a des refus d'obtempérer. Il y a une instruction très ferme, très claire que j'assume. L'engagement est systématique.
Dans sa communication, Laurent Nunez prend soin d'apporter son soutien aux policiers. Il s'est déplacé hier à Nantes au chevet des forces de l'ordre blessées lors d'un refus d'obtempérer. Mais sur le fond, le locataire de la place Beauvau constate une forme d'impuissance, de fatalité face à ce fléau en pleine recrudescence.
On peut difficilement aller plus loin sans engager l'intégrité physique des fonctionnaires et de police et des militaires de la gendarmerie, c'est important.
Or, c'est pourtant bien parce que les policiers sont dans une forme d'insécurité juridique qu'ils hésitent avant de sortir leur arme, tétanisés par le risque d'erreur. Ils perdent de précieuses secondes qui parfois peuvent s'avérer fatales, à la fois pour leur propre sécurité, mais aussi pour celles de leurs concitoyens qu'ils sont pourtant chargés de protéger.
Dans le reste de l'actualité en métropole, Emmanuel Macron en déplacement dans une ferme de Haute-Marne. À 3 semaines de l'ouverture du Salon de l'agriculture, le chef de l'État renoue le contact avec le monde agricole qui reste très en colère malgré la suspension du traité du Mercosur. Le chef de l'État a pu s'entretenir avec Cédric Pie, le propriétaire de l'exploitation sur laquelle il s'est rendu.
Le monde paysan, ça fait un moment qu'il ne va plus trop bien, vous le savez.
Et on se bat.
Tous les syndicats vous le disent.
On a un énorme défi agricole. Et au fond, ce que
qu'on était venu faire avec Madame la ministre était écouter, répondre à plusieurs préoccupations locales, et puis dire à nos agriculteurs qu'on continue la mobilisation et qu'on va se battre.
Un déplacement du chef de l'État qui n'a donné lieu à aucune annonce de mesures concrètes. À l'étranger, le bras de fer se poursuit entre les États-Unis et l'Iran. La menace d'une intervention militaire américaine reste vive, malgré les appels des deux côtés à ouvrir des discussions sur le nucléaire iranien. Pendant ce temps, le régime iranien continue de réprimer les manifestations et les oppositions, répression qui aurait déjà fait plusieurs milliers de morts. Le régime a également fait arrêter 50 000 personnes, et parmi elles, Mehdi Mahmoudian, co-scénariste du film Un simple accident, Palme d'or au dernier festival de Cannes, arrêté après avoir diffusé un message hostile à l'encontre du pouvoir. Caroline Baudry.
Un message dans lequel la répression est comparée à un crime d'État contre l'humanité. De quoi déclencher l'ire du pouvoir qui arrête dimanche trois signataires, dont Mehdi Mahmoudian. Le cinéaste militant des droits humains a déjà passé 9 ans derrière les barreaux. C'est là qu'il rencontre Jafar Panahi, réalisateur d'Un simple accident, avec qui il imagine les dialogues. Le film raconte l'histoire d'un ouvrier iranien qui croise par hasard celui qu'il pense être son ancien tortionnaire en prison. Le long métrage politique primé à Cannes est nommé dans les catégories meilleur scénario original et meilleur film pour les Césars 2026. Il est également sélectionné pour représenter la France aux Oscars. Dans la foulée, Jafar Panahi a condamné l'arrestation de son collègue et ami, a fait part de son inquiétude. Son absence se fait immédiatement sentir aussi bien entre les murs d'une prison qu'à l'extérieur, a-t-il déploré sur les réseaux sociaux.
Caroline Baudry pour Europe 1 à 11h56, la dernière pause de ce journal avant de voir l'actualité sportive et notamment les premiers huitièmes de finale de la Coupe de France de football.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Décompressez au Phare Amédée avec le Maridé. Si loin, mais si près, téléphone 26 31 31. Réservez votre place sur notre site web amedeeisland.com.
Samedi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Pensez à réserver votre table au restaurant Le Rouf au 25 07 00. Retrouvez le menu spécial Saint-Valentin sur la page Facebook Le Rouf.
L'Infomag continue avec le Village Automobile. Chevrolet, Citroën, DS Automobile, Great Wall, Haval, Isuzu, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Power et Subaru. Ces 11 grandes marques réunies sur un seul site avec des offres exceptionnelles. Rendez-vous au Village Automobile au BK4 à Nouméa.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
Infomag, l'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on va parler d'abord football. Marseille et Reims sont les deux premières équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe de France. Lionel Sabot.
Oui, Jean-François Baudin, pas vraiment guéri, tout au plus convalescent. L'OM s'est tout de même offert une respiration au milieu d'une période bien pénible en battant Rennes au Vélodrome et en se qualifiant surtout pour les quarts de finale de la Coupe de France. Au but d'un match qui a souvent été d'une grande pauvreté technique et souvent extrêmement électrique entre les clubs qui alternent le bon et le moins bon, Marseille s'est imposé 3-0 sur Rennes, qui est passé un peu à côté de son match. Dans l'autre rencontre de la matinée, deux clubs de Ligue 2 étaient en compétition pour une place en quart de finale. Reims accueillait Le Mans, ce sont les Rémois qui se sont imposés 3-0. Suite des rencontres demain et vendredi matin pour nous. Demain matin, à suivre une seule confrontation entre clubs de Ligue 1. Lorient accueillera le Paris FC. Les autres matchs opposeront des clubs de Ligue 1 à des clubs de Ligue 2. Toulouse accueillera Amiens. À suivre Lyon-Laval, Nice-Montpellier et un intéressant 3-Lens. Les Troyens sont premiers de la Ligue 2. Les Lensois sont deuxièmes de la Ligue 1. Et puis vendredi, Strasbourg accueillera Monaco.
Et puis en bref, une tuile pour le boxeur calédonien Cédric Do. Il a annoncé ce matin sur les réseaux sociaux qu'il était contraint de reporter le match, le combat qu'il devait disputer le week-end prochain lors d'une réunion aux Pays-Bas. Alors qu'il venait d'arriver en Europe, le Calédonien a appris que son adversaire ne pourrait pas avoir le poids nécessaire pour le combat. Cédric Do devrait combattre finalement en avril prochain, toujours en Europe. Voilà, il est 11h59, c'est la fin du journal.